Chapitre 15. Tous en scène, le théâtre et l'opéra. Dans ce chapitre, une brève histoire du théâtre. Les principales récompenses, la naissance de l'opéra en Europe, les plus prestigieuses manifestations. Vous avez déjà trouvé, dans les chapitres consacrés aux arts, des éléments sur le théâtre et l'opéra. Nous allons ici envisager ces spectacles dans ce qu'ils ont de plus vivant et dévoiler pour vous leurs petits secrets. Prêt à découvrir les ficelles du théâtre et le mystère des mouvements de glotte de l'opéra? Alors silence. Les trois coups sont frappés. Le lourd rideau de velours rouge s'écarte. Brève histoire du théâtre. Lié à sa naissance à la célébration des dieux, le théâtre, du grec « théatron », le lieu où l'on regarde, où l'on voit, est aujourd'hui un divertissement, une distraction. C'est aussi l'occasion de renouer avec de grands textes souvent étudiés à l'école ou encore de s'initier au plaisir de formes et d'expressions nouvelles. En 25 siècles d'existence, il a connu bien des métamorphoses, mais il reste au cœur de notre culture. Des origines à Shakespeare. Le théâtre n'a pas toujours eu la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, ou même celle qu'il avait à la grande époque depuis le XVIe siècle. Voici comment il traversa les siècles depuis l'Antiquité. Le théâtre antique. À l'origine, en Grèce, la représentation théâtrale se limite à un dithyrambe chanté et dansé par un chœur de citoyens en l'honneur de Dionysos, dieu de l'ivresse et des fêtes, accompagné du son d'une flûte. La grande nouveauté surgit au VIe siècle avant Jésus-Christ avec le poète Thespsis qui introduit un partenaire qui dialogue avec le chœur. Le premier acteur est né, et par la même occasion la tragédie. En effet, cet acteur est payé avec un bouc, tragos en grec, et sa performance prend le nom de chant du bouc, tragoédia en grec, d'où notre tragédie. Les Romains, peuple de paysans, apprécient surtout la grosse farce, les allusions graveleuses, l'obscénité du verbe et des gestes. Mais comme c'est fréquemment le cas, le vaincu finit par transmettre sa culture au vainqueur. Sous l'Empire, à partir du 1er siècle de notre ère, les érudits parlent le grec et les pièces comiques sont rejointes par les tragédies, soit directement dans la langue d'origine, soit romanisées et jouées par des acteurs revêtus d'une toge courte, la toge prétexte, réservée aux adolescents avant l'entrée dans l'âge adulte. Mais ce que le peuple de Rome préfère, c'est tout de même la pantomime, danse en musique qui se prête à la dérision ou à l'érotisme et égaye les intermèdes entre deux combats de gladiateurs ou exécutions de condamnés à mort.
Le saviez-vous? Nu comme un ver. S'il faut une preuve que le théâtre mène à tout, Théodora de Byzance, qui vécut au Ve siècle avant Jésus-Christ, en est la preuve absolue. Née dans une famille modeste, son père prenait soin des ours à l'amphithéâtre. Très tôt orpheline de ce père, la petite Théodora, selon cette mauvaise langue de Procope dans ses anecdotas ou histoires secrètes, s'exhibe avec une rare indécence, avec sa sœur Comito, plus âgée. À peine pubère, elle devient la vedette de pantomimes érotiques, qui servent d'intermède entre deux attractions à l'amphithéâtre. Elle se découvrait devant et derrière d'une manière si indécente qu'elle montrait aux spectateurs ce qui doit toujours être caché et rester invisible. Est-ce ainsi qu'elle attire les regards de Justinien, le prince héritier? Nul ne le sait. Toujours est-il qu'elle devient sa compagne, puis son épouse, et monte sur le trône quand il devient Basileus, l'empereur chrétien d'Orient en 527. Femme de caractère, elle persuade Justinien de ne pas fuir quand la ville se révolte, au cours de la sédition de Nicée en 532. Elle meurt en 548, laissant Justinien inconsolable. Qui aurait deviné cela en voyant la petite Oursonne? Qui est le surnom des danseuses nues de l'amphithéâtre?
Le théâtre médiéval. À l'époque médiévale, le théâtre évolue surtout vers deux genres. D'une part, les pièces destinées à édifier le public, les moralités, ou à retracer des épisodes de la vie du Christ, les mystères, ou d'un saint, les miracles. De l'autre, les divertissements prisés de tous, princes ou gens du peuple, les farces, aux comiques outranciers à nos yeux, aux situations accentuées pour provoquer le rire à coup sûr. La farce comprend aussi la sottie, ainsi nommée parce que les acteurs y arborent les costumes des sots, idiots, dépourvus de raison, de fous, vêtus de jaune, vert et rouge, agitant grelots et marottes qui sont des petits sceptres ornés d'une tête de fou creuse, emplie de pois secs qui résonnent à chaque mouvement. Le théâtre classique. Il faut ensuite attendre le XVIIe siècle pour assister à un renouveau du théâtre qui est occulté par les guerres de religion pendant une bonne partie du XVIe siècle et décrié par les protestants tout comme les catholiques de la contre-réforme. Cette renaissance théâtrale est due à la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, spécialisée dans la farce et les pièces à machine, c'est-à-dire avec des effets spéciaux. En 1680, le roi Louis XIV crée la première troupe permanente à son service en regroupant les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et ceux de la troupe de Molière. Les genres favoris du public sont alors la tragicomédie, une tragédie qui finit bien, bizarrement, et la pastorale, mise en scène des amours champêtres des bergers et bergères, avant le succès de la tragédie classique, illustrée par Corneille et Racine.
N'oubliez pas, règle de Troie. C'est à un ecclésiastique, le célèbre Armand Jean du Plessis, cardinal, duc de Richelieu, plus connu sous le seul nom de Richelieu, que nous devons l'organisation du théâtre classique. Pour Richelieu, tout est politique, la réorganisation de la langue française entreprise par le dictionnaire et la grammaire de l'Académie française, créée en 1635, tout comme le déroulement d'une pièce de théâtre. Désormais, prévaudra la règle dite des trois unités, que sont l'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. L'unité de temps signifie que l'action ne doit pas excéder une journée, soit 24 heures. L'unité de lieu, que la pièce doit se dérouler en un même endroit. Et l'unité d'action signifie que seules les actions centrales sont jouées sur scène. Les actions secondaires sont rapportées par un personnage. Ces règles peuvent sembler terriblement contraignantes, mais elles permettent aux acteurs de se faire entendre, au sens propre, à une époque où les grands personnages veulent être installés sur la scène même, avec leur suite, composée de chiens, d'amuseurs et de flagorneurs, pendant que le public parle à haute voix, mange, se bat et chante au besoin.
La commedia dell'arte. Pendant que l'esthétique classique, faite de mesures et d'ordre, s'impose en France, l'Italie, elle, porte au nu la commedia dell'arte, où, sur une trame, des comédiens masqués improvisent textes et situations au rythme de danse et d'acrobatie. Chaque personnage incarne un ridicule ou un vice. Arlequin est cynique et grossier, Pierrot est l'amoureux transi, Pantalone, un vieillard avare et amoureux salace. Le théâtre élisabétain. En Angleterre, le XVIIe siècle est celui du théâtre élisabétain, du nom de la reine Élisabeth Ière, reine de 1558 à 1603, la terrible reine vierge, protectrice des troupes comme celle des Chamberlain's Men, dans laquelle joue Shakespeare, acteur et auteur. Il est possible de définir le théâtre élisabétain à la fois par ses thèmes qui mêlent l'histoire à l'érotisme, la violence à la franche grossièreté et par la nouvelle organisation du lieu. Français et italiens jouent sur une scène frontale face au public. Les acteurs anglais préfèrent une arène, souvent à ciel ouvert où ils sont entourés des spectateurs sur trois côtés, n'utilisant pour les décors et changements que le quatrième côté. Du XVIIIe siècle à nos jours. Après le XVIIe siècle, le théâtre est définitivement implanté dans la culture européenne. Il peut alors se développer selon différents genres au long des siècles suivants jusqu'à atteindre les formes qu'on lui connaît aujourd'hui. Le théâtre des mœurs. Tout au long du XVIIIe siècle, les règles et normes de l'époque classique pèsent encore, donnant naissance à un genre particulier, le néoclassique, surtout présent au sein des tragédies. Mais le siècle est tout de même surtout celui de la comédie, sous trois formes principales. La comédie de mœurs, qui entend dénoncer les travers et les vices d'une époque, mais demeure comédie par sa fin heureuse, illustrée notamment par Alain-René Lesage. La comédie psychologique, qui mêle l'expression des sentiments à la volonté de faire triompher l'intelligence, c'est la spécialité de Marivaux. La comédie de caractère, politique et sociale, où l'apparente harmonie et l'invraisemblance masquent une critique féroce où éclate le génie de Beaumarchais. Le théâtre romantique. Le XIXe siècle s'ouvre véritablement avec le théâtre romantique, née avec la représentation d'Hernani de Victor Hugo en 1830. Les romantiques reviennent au sujet tiré de l'histoire nationale, s'inscrivant ainsi contre l'antiquité gréco-romaine des classiques. L'essentiel est l'exaltation des passions. La seconde moitié du XIXe siècle est dominée en art par le réalisme qui se donne pour mission de peindre au plus près le réel. Les personnages sont décrits avec objectivité, les sentiments exprimés sont plausibles. Le théâtre naturaliste. Le naturalisme au théâtre, qui existe en peinture et en littérature romanesque, veut reproduire la nature humaine au plus près de sa vérité scientifique. Les grands auteurs sont August Strindberg, dramaturge suédois, et Henrik Ibsen, dramaturge norvégien. En ce qui concerne le jeu, le naturalisme revendique un refus d'exprimer. L'acteur doit être au plus près de la nature humaine et non la transformer. Il rend une situation plus qu'il ne la joue. Le théâtre engagé. Au XXe siècle, le théâtre devient le lieu privilégié de l'expression des idées pour des auteurs comme Luigi Pirandello, qui s'interroge dans Chacun sa vérité en 1917 sur la place et la relativité de la vérité dans notre société. Cette impossibilité de se référer à une vérité unique et commune oblige les hommes à se contenter de fragments éclatés qu'ils se transmettent sans signification ni valeur réelle, comme dans Six personnages en quête d'auteur en 1921 ou Henri IV en 1922. Enfermés dans leur vérité personnelle, les hommes se bercent d'illusions pour tenter d'échapper à l'angoisse et l'incommunicabilité.
Le saviez-vous ? Du sang ! Du sang ! À l'origine, le Grand Guignol renvoie au nom d'un théâtre, ouvert en 1897 à Pigalle, rue Chaptal. Son nom est à comprendre comme « Guignol pour les grands », ce qui s'explique quand on connaît la nature du spectacle, reposant sur des seaux de sang, des abats de triperie, des déchets de boucherie jetés à tout va, sur scène et sur les spectateurs. Les pièces données, courtes, reposent sur la multiplication finale de ces effets macabres et sanguinolents. L'auteur principal en est André Delorde, qui fournit une centaine de pièces, dont L'horrible passion et L'homme de la nuit. Plus tard, le Grand Guignol devint un genre proche au cinéma de celui des films gore. Le théâtre du Grand Guignol a fermé en 1962.
Appartenant à la génération suivante, Bertolt Brecht se fait d'abord connaître par sa période anarchiste, celle de la pièce Baal en 1922, qui est une violente révolte contre le monde présentée comme l'excrément de Dieu. Peu à peu, Brecht évolue du refus du conservatisme bourgeois à l'adhésion au communisme militant. Cette évolution est perceptible dans les pièces musicales écrites avec la collaboration de Kurt Weill pour la partition L'Opéra de Katsu en 1928 et Mahagoni en 1929. Pour Brecht, le théâtre est un instrument didactique. La pièce ne doit pas surtout distraire, mais enseigner. Le spectateur participe pleinement à la création, en apprenant, en intégrant un message, comme ceux de Mère Courage et ses enfants en 1938 ou du Cercle de Crécaucasien en 1945. L'engagement individuel se manifeste également dans les œuvres d'Albert Camus, parmi lesquelles on peut citer « L'étranger » publié en 1942, « Le mythe de Sisyphe » en 1943, « La peste » en 1947 et « La chute » en 1956. Ces livres sont fondés sur l'idée de la nécessaire fraternité entre les hommes, au-delà des clivages sociaux ou idéologiques. Proche de Jean-Paul Sartre, comme lui, influencé après 1945 par l'idéologie marxiste, Camus rompt en 1951 avec le stalinisme, incompatible avec le respect d'autrui et la conscience fraternelle, en publiant en 1951 « L'homme révolté ».
Le saviez-vous ? Un théâtre pas bidon. Connu également sous le nom de Théâtre des opprimés, le Théâtre Forum naît dans les bidonvilles, les favelas de Sao Paulo au Brésil. Il mêle expression théâtrale et revendication politique selon le principe suivant. Les acteurs préparent une scène dénonçant une réalité sociale insupportable, comme la prostitution, le racket ou les meurtres brutaux. Puis cette courte scène est jouée au milieu du bidonville. Les habitants, qui reconnaissent leur quotidien de misère, sont invités à participer, aussi bien en commentant qu'en intervenant directement dans le jeu des acteurs. La finalité, au-delà du spectacle participatif, est de favoriser l'éveil d'une conscience politique.
Le théâtre de l'absurde. Inspiré par les drames humains de la Première Guerre mondiale, le théâtre de l'absurde, tout comme le mouvement Dada, remet en cause l'idée de sens de l'existence. Les hommes, pas plus que leur monde, n'ont de signification. Seul l'absurde peut permettre, par moments, de faire jaillir un éclat d'humanité. Héritier d'Alfred Jarry, Eugène Ionesco s'inscrit ainsi dans cette veine satirique pour dénoncer les méfaits du nazisme et sa volonté forcenée d'uniformisation dans Le Rhinocéros en 1960. Toutefois, il faut attendre 1962 pour que le théâtre de l'absurde soit théorisé dans un essai du critique Martin Esselin intitulé justement « Le théâtre de l'absurde » qui analyse et popularise l'expression. Les œuvres les plus représentatives de ce mouvement sont notamment « Ubu Roi » d'Alfred Jarry, publié en 1896, « La cantatrice chauve » de Eugène Ionesco, publié en 1950, « En attendant Godot » de Samuel Beckett, publié en 1953, « Le balcon » de Jean Genet, publié en 1957.
Le saviez-vous ? L'Outrapeau. En 1960, l'écrivain Raymond Queneau fonde l'Oulipo pour ouvroir de littérature potentielle, en compagnie du mathématicien François Le Lyonnais, 1901-1984, avec le désir de renouveler les formes d'expression littéraire grâce à une esthétique du jeu basée sur des contraintes formelles. C'est dans un esprit similaire qu'est fondé à Londres en 1991 l'Outrapeau, pour ouvroir de tragicomédie potentielle. Ici encore, le maître mot est la contrainte. En s'imposant des formes théâtrales, en se restreignant volontairement, l'acteur dépasse son jeu habituel et donne naissance à une expression nouvelle ou à la redécouverte des possibilités non explorées d'une forme ancienne.
Le théâtre expérimental. Le théâtre expérimental se développe au cours des années 1960 par la volonté de briser les codes classiques de diction, de jeu, de mise en scène, par le refus même de l'espace théâtral lui-même. Ainsi, le théâtre, salle de spectacle, devient un lieu ordinaire et non le lieu privilégié de la représentation. De même, une pièce peut n'être jouée qu'une seule fois, ou alors seulement quelques scènes. Toutes les règles, les formes canoniques doivent s'effacer. Les autres arts du spectacle sont sollicités, la danse, le chant, la pantomime, le cirque. Le texte lui-même n'est plus fondamental, il laisse la place à la performance de l'acteur qui prend possession de son propre corps et de l'espace pour l'interpréter. L'accent est plus mis sur le spectacle que sur le théâtre.
Un peu de technique. Faites-en un drame. Bien qu'appelé théâtre, le théâtre spontané a un but thérapeutique. Il s'agit pour les membres d'un groupe de jouer des scénettes qui permettent de mettre en scène des névroses. Totalement spontanée, sans scène véritable, car elle est remplacée par un espace scénique arbitraire, et sans aucune consigne ni arrangement, le théâtre spontané doit permettre à l'inconscient du souvenir traumatique de refaire surface. Le théâtre spontané est parfois rapproché de la technique de thérapie de groupe, appelée psychodrame, puisque là aussi, un scénario improvisé met en scène la dramatisation d'une névrose, seule ou en groupe.
Un festival de récompense. Dans le domaine du théâtre, si les festivals sont nombreux, il en est un dont la notoriété est incontestable, celui d'Avignon. Nous vous convions à sa découverte avant de partir applaudir à tout rompre et exulter en bravo répété à la remise des Molières, puis du prix Gérard Philippe. Le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon naît en 1947 à l'initiative de Jean Villard, à la fois acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National Populaire. Trois lieux symboliques de la ville sont investis pour la toute première semaine d'art dramatique en Avignon, futur Festival d'Avignon. La cour d'honneur du Palais des Papes, le Théâtre Municipal et le Verger, dit Urbain V. Sept représentations y sont données, dont trois créations. Jean Villard a présidé le festival jusqu'à sa mort. Victime de son succès, la manifestation s'étend aujourd'hui sur plusieurs semaines en juillet et en août et s'étale géographiquement sur plus de 40 sites dans et hors d'Avignon. Elle ne se limite plus aux seules représentations théâtrales, mais est ouverte à l'expression de tous les spectacles vivants, notamment de rue. Depuis 1968, l'habitude est prise de scinder le festival en deux parties. D'une part, le festival IN, ou festival officiel organisé par une association présidée par la mairie d'Avignon, et de l'autre, le festival Off, composé de centaines de troupes qui viennent tenter leur chance, gagner en notoriété, jouant dans tous les lieux possibles, s'organisant par eux-mêmes d'abord, jusqu'à ce qu'en 2006, pour plus de visibilité, une organisation les aide, le Avignon Festival Off.
N'oubliez pas le beau CID que voilà. Si le Festival d'Avignon est automatiquement associé au nom de Jean Villard, il est indissociable également de celui de Gérard Philippe. L'acteur, alors au fait de sa gloire, participe au festival à partir de 1951 et y interprète son rôle fétiche, le CID de Corneille, mais aussi Richard II de Shakespeare et le prince de Hombourg d'Heinrich von Kleist. Le rôle du CID marque la mémoire collective, à tel point que c'est une photo de Gérard Philippe costumé en Rodrigue qui orne, en 1970, la couverture des éditions Larousse de la pièce de Corneille. C'est dans ce même costume que l'acteur, selon son souhait, est inhumé, après sa disparition prématurée, le 28 novembre 1959, dans le cimetière de Ramatuelle, à un jet de pierre de la cité où se déroule désormais le festival Gérard Philippe.
La cérémonie des Molières. La cérémonie des Molières ou Nuit des Molières est créée en 1987, sur le modèle de la Nuit des Césars, qui récompense les professionnels du cinéma afin de décerner des distinctions aux gens de théâtre en fonction de plusieurs catégories. Meilleure comédienne, comédien, second rôle féminin et masculin, auteur, adaptateur, metteur en scène, décorateur, etc. Sont également distinguées dans la catégorie révélation les révélations théâtre masculines et féminines de l'année. Les lauréats sont élus par des professionnels du théâtre et des journalistes. Un Molière d'honneur est décerné à un comédien, une comédienne ou un auteur pour saluer l'ensemble de sa carrière. Le prix Adami y est décerné à une compagnie qui vient de se lancer. Événement très médiatique, la cérémonie de remise des Molières est diffusée en direct, en avril, sur une chaîne de télévision du service public. En dehors des Molières, plusieurs prix viennent récompenser les professionnels du théâtre. Citons ainsi le prix Gérard Philippe qui est décerné chaque année au meilleur comédien de théâtre, le prix Arletty qui récompense chaque année un comédien, un metteur en scène ou un auteur, le prix du brigadier, du nom du bâton qui sert à frapper les trois coups annonçant le début de la pièce, qui récompense une personnalité du monde du théâtre. Le prix Sylvia Montfort est quant à lui décerné tous les deux ans à une jeune tragédienne par un jury de professionnels. L'opéra à travers les âges. Le mot « opéra » vient d'un terme latin qui signifie « œuvre » ou « ce qui a été créé ». Il définit aujourd'hui une œuvre musicale et scénique, chantée en totalité ou non. Né au début du XVIIe siècle en Italie avec Orfeo de Claudio Monteverdi et très populaire jusqu'au XIXe siècle, le genre s'embourgeoise toutefois peu à peu au point d'être facilement caricaturé comme un art figé réservé à une élite. Mais tournons le dos à ces clichés et ces a priori. Vous ignorez ce qu'est l'ambitus ? Courage, dans deux minutes, il n'y paraîtra plus. La naissance de l'opéra, XVIe-XVIIe siècle. Bien avant le XVIe siècle sont données des pièces qui alternent les parties chantées et les récitatifs, moment où les interprètes parlent sur le mode théâtral habituel. Les ballets et danses diverses font également partie d'un spectacle complet, tout comme le chant. Mais ils sont avant tout, avant la naissance de l'opéra proprement dit, des ornements. Avec l'apparition du livret qui est le texte chanté et la nécessité de la présence d'un orchestre, l'opéra devient une représentation qui se suffit à elle-même. Italien de naissance, de cœur et longtemps de langue, l'opéra séduit vite la France, les pays germaniques et la lointaine Russie, autant de lieux où il s'épanouit dans les variantes du génie national. En Italie. Considéré comme le père de l'opéra, l'italien Claudio Monteverdi se consacre longtemps aux madrigaux. Un madrigal est une pièce de musique profane, issue des chansons de troubadours, qui utilise le chant en contrepoint, c'est-à-dire en opposant et superposant des voix différentes, souvent a cappella ou comme à la chapelle, sans accompagnement musical. Mais en 1607, il rompt avec le genre pour produire son Orfeo. Le rôle des instruments et celui des voix sont fixés. Monteverdi n'emploie pas le terme d'opéra pour désigner cette œuvre. Il la nomme « Drama per musica » ou « Tragédie en musique ». Il fournit ainsi l'une des premières définitions de ce qu'est un opéra. En France. En France, c'est Francesco Cavalli, compositeur de 34 opéras comme la Daphné en 1640 et Il Giasone en 1649, qui introduit l'opéra à la cour, où Jean-Baptiste Lully, compositeur d'Alceste en 1674, Roland en 1685, Armide en 1686 et Marc-Antoine Charpentier, compositeur de la Descente d'Orphée aux Enfers en 1687, David et Jonatas en 1688, Médée en 1693, donnent au genre ses lettres de noblesse. Au siècle suivant, Jean-Philippe Rameau reprend le flambeau avec une moisson de chefs-d'œuvre dont Hippolyte et Aricie en 1733, Les Indes galantes en 1735 et Castor et Pollux en 1737.
Le saviez-vous ? Contre le contrepoint. C'est le 1er février 1598 qu'est joué le tout premier opéra de l'histoire, Daphné, de Jacopo Peri. Ce dernier fait partie d'un cénacle de musiciens, la Camerata ou Salon en italien. De Florence qui s'est donné pour but de rénover la musique en suivant deux objectifs. D'une part, faire renaître la représentation de l'Antiquité grecque. D'autre part, rendre l'écoute plus agréable en imposant une ligne monodique et claire. Leur devise, qui est « La musique au service de la poésie », est un programme à elle seule, contre la polyphonie et le contrepoint, qui rendent incompréhensibles les paroles des textes chantés. Pourtant, l'histoire de la musique retient souvent en tant que premier opéra Orfeo de Monteverdi, qui connut un succès considérable et éclipsa de ce fait la Daphné de Jacopo Peri.